Gloire à Dieu, on est en train d'étudier le livre de Galatie, Épître aux Galates, une épître qui est envoyée aux églises de la Galatie, des églises que Paul avait fondées, puis il y avait plusieurs églises, puis ces églises-là, ils étaient sauvés par grâce, ils avaient accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, ils étaient nés de nouveau, ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils marchaient avec le Seigneur, jusqu'au jour où il y en a parmi eux, des Juifs qui se sont levés puis ont commencé à mettre de la pression pour que les païens se fassent circoncire afin d'être sauvés, puis de retourner au principe de la loi. Là, l'apôtre Paul est obligé d'envoyer une lettre pour leur dire, vous avez vu, on est rendu au chapitre 3, il en a dit des arguments. Depuis le début du chapitre 1, il dit des arguments, puis il en dit encore jusqu'au chapitre 3. On va en avoir encore quelques réunions, on continue l'étude là-dessus. Il donne encore des arguments pour lui faire comprendre que c'est pas le plan de Dieu qu'on retourne à la loi quand t'es déjà sauvé par Jésus. T'as pas besoin de retourner à te faire circoncire, t'es déjà sauvé par Jésus. Puis là, il dit toutes sortes d'arguments, puis ça, c'est des explications qui étaient nécessaires dans cette époque-là, parce que les Juifs, eux autres, ils suivaient la loi de Moïse de père en fils, de génération en génération, c'était ancré en eux. Puis, pour eux, c'était de suivre la loi qui était pour la méthode pour être sauvé, sauf que Paul l'a bien expliqué dans plusieurs lettres qu'il n'y a pas personne qui peut être sauvé par la loi, parce que c'est par la loi qu'on vient en connaissance du péché, puis on a besoin du Messie pour être sauvé. Sinon, si ça donne, comme on avait à la dernière réunion, ça n'aura rien servi à Jésus de venir si on pouvait être sauvé par la loi. Aujourd'hui, on continue le débat. On est dans Galates au chapitre 3, le verset 1. On va essayer d'aller jusqu'au verset 5. Au Galates chapitre 1, Paul il lui dit, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? » Paul il commence ce chapitre-là dans son idée qu'il veut expliquer aux gens de la Galatie, puis ça semble être en partant une insulte qu'il est en train de leur dire. Il est dit, vous êtes dépourvus de sens. Nous, en québécois, on peut dire insensé, illogique. Ça n'a pas de sens, qu'est-ce que vous dites. Puis, ça semble être qu'une insulte qu'il est en train de lui dire pour essayer de les saisir. Mais il faut faire attention sur les mots en français. Parce que nous, en français, on a ces mots-là. Puis, ils n'ont pas toujours la même pesanteur que nous, les Québécois, quand on les utilise. Quand on traite quelqu'un d'épais ou on traite quelqu'un de pas d'allure ou de sans dessin ou pas de sens. C'est toujours des synonymes pour lui donner des noms pour les rabaisser. Mais dans le grec, on va voir que le sens du mot, parce que c'est important, tantôt vous allez voir pourquoi c'est important qu'il faut peser cela. On ne sait pas non plus dans quel ton qu'il le dit. Le mot est important, puis dans quel ton qu'il le dit. Parce que si tu traites quelqu'un de mauvais mot, puis tu le traites sur un ton comme tu es fâché, ça a un sens. Puis si c'est juste, mais t'essayes d'y faire comprendre quelque chose, puis t'as dit ça n'a pas de sens ce que t'es en train de dire là. C'est pas réellement une insulte. Mais pour du monde, ça peut avoir de l'air que c'est arrogant, puis que c'est quelqu'un qui les traite d'épais. C'est ça qui serait peut-être un des sens qu'au premier abord qu'on pourrait penser. Mais c'est pas le cas. Paul, il n'était pas comme cela, on va comprendre pourquoi. Le mot qu'il y a là, dépourvu de sens, le mot grec, il veut dire sans intelligence ou insensé. Puis quand tu donnes les définitions de cela dans le grec, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ils ont non compris ce que tu voulais dire. Au plus léger du terme, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Ça n'a pas de sens la manière que vous pensez, parce que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas une insulte, c'est juste comme le faire prendre conscience que le raisonnement est pas bon. Ou ça peut être comme le sens inintelligible. C'est pas quelque chose d'intelligent que vous dites. Dans le sens aussi, Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a pas de sens. Vous êtes insensé, mais c'est dans le sens, tu comprends pas ce que je veux dire. Ou de dire à quelqu'un, tu n'es pas sage. Ou ça peut aller jusqu'au mot sot. Tu es sot, tu es une personne sotte. Une personne qui est sot, c'est une personne qui n'est pas brillante. Ou insensé, ça peut aller aussi jusque dans ce sens-là. Il faut comprendre que l'apôtre Paul, son but dans ce verset-là, c'était pas d'insulter les gens, c'était juste d'aller lui faire prendre conscience que ce qu'il est en train de dire, c'était pas correct de dire « il faut retourner à la loi ». Vous comprenez pas le message. C'était ça qui est le vrai sens. Parce qu'on va le voir tantôt pourquoi que je dis cela. Dans Matthieu 5:22, pourquoi que je dis cela? Parce que Jésus nous a bien avertis de ne pas traiter des noms aux gens, puis de les traiter de on va voir les termes, là. On va comprendre qu'il y a quelque chose là. Dieu veut pas que ses enfants traitent les autres qui sont ses enfants avec des noms qui les rabaissent comme cela, même jusqu'à dire que c'est un insensé. Au point de vue, tu n'as pas de sens, mais dans le sens comme une insulte. On va voir la différence dans cela. Jésus qui parle dans Matthieu 5:22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Ça, faut toujours, entre chrétiens, faire attention de ne pas se mettre en colère contre d'autres chrétiens. Jésus a dit, si tu fais ça, tu mérites d'être puni par les juges. La même chose que si tu aurais tué ton frère, tu aurais été puni par les juges. C'est ça qui était le jugement de quand tu tuais quelqu'un. Puis Jésus dit que c'est aussi grave d'être en colère avec ton frère que si tu l'aurais tué. Puis ça, on le voit dans les autres épîtres, quand il parle de marcher dans l'amour, si tu as de la haine ton frère, il dit que tu es un meurtrier. Jean le dit, Jacques le dit, il dit tu pèches contre le commandement de Dieu d'être un meurtrier si tu manques d'amour pour ton frère. Il veut pas qu'on rabaisse les gens, comme Jacques dit, de pas traiter quelqu'un de assis-toi là à terre, puis il dit à l'autre, assis-toi là sur la chaise d'honneur. Il dit, t'es en train de faire des distinctions avec des pensées mauvaises, puis t'es en train de pécher contre les commandements de Dieu. Puis si tu pèches contre un commandement, tu deviens coupable de tous. Il dit tout ça dans son principe qu'on n'a pas à faire de distinction entre les chrétiens. Puis là, on est en train de voir que Jésus lui dit, « Mets-toi pas en colère envers ton frère. » Puis il dit, on continue, il dit, « Celui qui dira à son frère, « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. » Le Sanhédrin, c'est ça qui a condamné Jésus. Là. C'est une haute sphère de juges juifs qui jugeait les choses spirituelles. Puis celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. C'est pas léger, là. Si on traite un frère d'insensé, Paul est en train de le dire, tantôt je disais, aux Galates dépourvus de sens. Ça veut dire, vous avez pas de sens, vous êtes insensé. C'est un mot-là, on peut aller jusque dans ce sens-là. Mais Jésus dit, si tu traites quelqu'un d'insensé, tu mérites d'être puni par le feu de la Géhenne. Fait qu'en français, si tu fais 1 égale 1, tu dis, il l'a traité d'insensé, puis Jésus dit, tu le traites d'insensé, tu mérites d'être puni par le feu de la Géhenne. Mais c'est pas ça que Paul a fait. Faut faire attention. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller lire le mot grec. Parce qu'en français, ça ressemble à être les mêmes mots qui sont là. Quand tu vois le grec, c'est pas le même mot. Quand Paul l'a dit, c'est un mot grec qui voulait dire, vous comprenez pas. Puis quand Jésus le dit en parlant d'insensé, il dit, tu les traites de fous. C'est pas juste que tu comprends pas. Insensé, dans le sens du mot normal, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu dis. Si tu dis ça, c'est tu ne l'as pas rabaissé, tu fais juste évaluer ce qui a été dit. Tandis que Jésus, quand il en parle, lui dit, c'est quand tu traites de quelqu'un de fou, tu traites ton frère de fou, ton frère dans le Seigneur, tu le traites de fou, tu mérites d'être puni par le feu de la Géhenne. Jésus qui dit ça, c'est pas des farces. Jésus parle pas pour rien dire. Jésus n'accepte pas qu'on traite nos frères et sœurs de fous. Mais Paul les a pas traités de fous. Il a juste dit que le raisonnement il était dépourvu de sens en français. Ça semble être semblable quand tu regardes en français. Faut faire Paul, il a jamais transgressé ce que Jésus a dit. Puis je veux juste en revenir aussi pour le mot raca, parce que Jésus dit, tu dis le mot raca, que ça veut dire raca, ça veut dire vaut rien. Quand tu traites l'autre de vaut rien, puis c'est un chrétien que Christ il a payé pour lui, c'est pas un vaut rien. Un vaut rien, c'est ça vaut rien. Tu traites le frère de vaut rien, tu mérites d'être puni par le Sanhédrin. Si tu le traites de fou, tu mérites d'être puni par la GN. C'est la même chose que Jacques qui dit, tu fais juste lui dire de s'asseoir à terre parce qu'il n'est pas important, parce que c'est un pauvre, puis tu ne lui donnes pas de place d'honneur. Tu es déjà un meurtrier prêt à être jeté, à condamner par la loi. C'est quelque chose, ça, là. Jésus veut pas qu'on ait des paroles ou des attitudes face aux frères et sœurs qui sont pas de l'amour, voyez-vous? Puis si tu dis ça, faut que tu fasses attention, faut que tu te repentes, parce que Jésus n'accepte pas ça, puis tu risques de te faire manger une claque par le Seigneur. Parce qu'il veut nous redresser, il veut pas qu'on périsse, mais il nous avertit qu'on mériterait ça. Fait que quand Paul a dit ça, c'était pas le même mot dans le grec. Lui, Paul voulait juste lui dire, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que vous dites. Il les a pas traités de fous, puis il les a pas traités de vauriens. Il n'a pas péché contre ce que Jésus a enseigné. Ce qui est arrivé, là, vu qu'ils ont décidé de commencer à retourner à la loi, puis à forcer les autres à retourner à la loi, il est en train de faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu avait enseigné dans la Nouvelle Alliance. Là, l'apôtre Paul, pour continuer son idée, pour renforcer l'idée que c'est en Jésus qu'il salue, il dit, il leur a posé une question. Ils ont continué le même verset dans Galates 3:1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Quand il dit qui vous a fasciné, en français, ça ne nous dit pas grand-chose le mot fasciné. Une fascination, ça a l'air. Ça frappe pas gros, mais quand tu vas voir le mot grec, j'aime ça des fois parce qu'on approfondit l'idée. C'est ensorcelé que ce mot-là veut dire. Qui vous a ensorcelé pour que vous mettiez à vouloir tourner à l'ancienne méthode qui était inefficace? Autrement dit, les gens de Galates, Paul, il disait, vous êtes en train d'être comme sous le charme d'une domination spirituelle qui est en train de vous mener là dans l'aveuglement spirituel. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Le fait que les gens de la Galatie changent leur foi en voulant retourner à la loi de Moïse, il leur a demandé « Qui vous a ensorcelé? » Ça revient un peu à l'idée de l'autre verset que l'apôtre Paul a dit. Il dit « Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. » Ben, ça va être des doctrines de démons. Il dit, quand tu changes de doctrine pour être pensant être sauvé par d'autres choses, tu es en train d'être séduit par quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de te mêler, il y a quelque chose qui est en train de te sortir de la vérité, ça semble beau. Mais tout ça, là, cette séduction-là qu'un esprit fait, c'est comme s'il est en train de t'ensorceler. C'est comme s'il est en train de te charmer. Il met ça beau, l'autre affaire, comme si ça serait la vérité, mais c'est pas la vérité. Si tu changes de position pour ton salut, tu es en train d'abandonner la foi pour t'attacher à ces esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est pas des farces, c'est pas léger. Quand quelqu'un commence à vouloir changer de manière d'être sauvé, quand il a déjà été sauvé, il est comme sous la pression, pas d'hallucination, mais de séduction, de piège, d'être charmé, ensorcelé. Le mot qui est là, c'est ensorcelé. Puis, ça a différentes profondeurs, ce mot-là. Il parle comme si quelqu'un, tu parles en mal de quelqu'un, ça fait aussi cette fonction-là de mélanger l'autre puis de l'emmener à penser mal de l'autre quand tu es en train d'y changer pensée pour l'amener dans le mal. C'est ça qui est le point. Quand tu ensorcelles quelqu'un, l'habitude, là, tu regardes les. Nous, on ne connaît pas très bien cela, mais dans les autres pays, ceux qui pratiquent le vaudou, par exemple, ils ont les statues, les poupées des autres, là, puis ils font des incantations, ils invoquent les mauvais esprits, puis ils plantent des aiguilles, puis ils envoient des sorts. C'est des paroles qui sont prononcées dans le but d'amener le mal sur la personne pour qu'elle soit attaquée dans son esprit ou dans son corps, pour qu'elle soit dans le mal. Fait que quand t'es en... Il dit ce mot-là, ensorcelé, c'est quand tu es en train de parler en mal de quelqu'un à quelqu'un, tu es en train de mêler la personne puis l'emmener à penser mal de l'autre. Mais tu es en train de faire comme la fonction de l'ensorceler. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Ce mot-là a le sens, apporter le mal sur quelqu'un par une invocation, ça a ce sens-là. Ou un mauvais œil, comme qu'ils disent dans les sciences occultes. Ça, c'est dans le mot grec du mot charmer, ensorceler, fasciner, jeter un sort. Fait que Paul est en train de lui dire, là, c'est plus intelligent ce que vous dites là. C'est, vous comprenez plus, là. C'est qui vous a ensorcelé pour que vous ayez l'idée de changer puis de retourner à la loi? C'est ça qui est la phrase qu'il est en train de lui dire. Quand quelqu'un veut abandonner le Seigneur et s'en aller à la loi de Moïse, c'est un ensorcelé, un mêlé. Il s'en va dans le mal. C'est dans le sens-là que Paul est en train de le dire, que les Galatiens t'ont rendu jusque-là. C'est quelque chose. Puis là, Paul, il leur pose une autre question pour les ramener à les recentrer sur la vérité. Dans Galates 3:2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou c'est par la prédication de la foi? Parce que tous ces gens-là, c'était des gens de nouveau, ils ont eu le Saint-Esprit en se convertissant au Seigneur. Ils ont été imposés des mains, leur vie a commencé à changer par la puissance de Dieu. Puis là, Paul lui pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit en pratiquant la loi ou par la prédication de la foi? Parce que ces Juifs-là, c'était tous des gens qui étaient sous la loi avant. Mais il n'y avait pas le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en pratiquant la loi. Le Saint-Esprit, tu l'as par la foi. Comme Abraham marcha par la foi, il était sauvé. Puis David, c'est la même chose. Ces hommes-là qui marchent par la foi, ils étaient dans le Saint-Esprit. Mais le salut s'obtient par la foi. Puis là, il leur pose la question, vous voulez retourner à la loi? Quand est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand vous étiez sur la loi? Ou en réponse à la prédication de la foi? À quel moment les gens reçoivent-ils le Saint-Esprit? Vous devez le savoir. Puis même les païens qui étaient là dans cette église-là, ils étaient tous nés de nouveau, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. À quel moment qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? À partir du moment qu'ils ont répondu à l'appel de croire en Jésus. Avant, ils ne pratiquaient pas la loi, ils ne l'avaient pas. C'est en commençant, en acceptant Jésus comme leur sauveur personnel qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Fait que, il dit, dans la parole, dans 1 Corinthiens 1:21, ça nous dit, « Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » C'est une chose folle, prêcher le Jésus-Christ. Mais Dieu a quand même choisi de sauver le monde par la prédication de la croix, prédication de la foi dans le Messie. Quand tu prêches là, puis que le monde croit qu'ils sont sauvés par le Messie, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils naissent de nouveau. C'est là que leur vie commence à changer. Fait que ils lui posent la question, quand est-ce qu'ils l'avaient reçu? Ils l'ont tout reçu en se convertissant au Seigneur, en écoutant par la foi. Fait que il est en train de lui dire, ça donne rien de retourner à la loi. Personne n'a reçu le Saint-Esprit par la loi. Ça a toujours été suite au salut par la foi. Jésus a dit à un gentil juif, un rabbin juif, un gars qui pratiquait la loi juive, puis il était gentil, ce gars-là. Tu le vois qu'il cherchait à comprendre Nicodème. C'était un gars qui aimait la vérité, il voulait apprendre la vérité, il était questionné Jésus sur la vérité, à la cachette, mais quand même, il cherchait. Puis, il était dans la loi, puis il n'était pas sauvé, il n'était pas né de nouveau. Puis Jésus, il a dit à lui, dans Jean 3, 5 à 7, « en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Fait qu'il est en train de dire un chef religieux juif qui suivait la loi, il faut que tu naisses de nouveau. Il est en train de dire ça à lui. Il faut que vous naissiez de nouveau. Fait que si la loi pouvait sauver quelqu'un puis donner le Saint-Esprit, il l'aurait eu déjà. Mais il l'avait pas. Jésus dit, il faut que tu l'aies. Sinon, tu peux pas le voir ni entrer. Ça veut dire, quand tu es sous la loi, ça donne pas le Saint-Esprit. Faut que tu ailles à Jésus. Faut que tu naisses de l'Esprit. C'est là que t'es vraiment sauvé. C'est ça que la Bible a dit tout le long. Même dans l'Ancien Testament, le salut est par la foi en Dieu puis dans son Messie. Prêcher la parole de Dieu par l'Évangile semble fou aux yeux du monde, mais Dieu en a fait une arme puissante qui sauve les gens. Dans 1 Corinthiens 1, 18, ça dit, « Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. » Fait que prêcher la croix, ça semble fou pour le monde, mais pour nous, c'est une puissance de Dieu parce que ça sauve. Quand tu mets ta foi dans la croix, dans l'œuvre accomplie de Jésus qui a versé son sang, quand tu mets ta foi là-dedans, tu es pardonné de tes péchés et tu reçois le Saint-Esprit. Ta vie commence à changer à partir de ce moment-là. Fait qu'il lui dit aux Galatiens, quand est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? En étant sous la loi? Mais il ne parlait pas à tout le monde, mais il parlait aux Juifs surtout, qui essayaient d'imposer cela à tout le monde. Fait qu'il fallait que des gens entendent prêcher sur le Messie avant d'y croire. Mais il fallait que les gens mettent leur foi dans le Messie pour être sauvés. Mais il fallait que les gens soient sauvés pour recevoir le Saint-Esprit. Le salut, il est par la foi au Messie et non par la loi de Moïse. Fait que c'est quand tu passes avec ta foi, tu passes par Jésus, c'est là que tu obtiens tout, le pardon de tes péchés. Tu commences une nouvelle vie, le Saint-Esprit rentre dans toi, tu as cette nouvelle vie qui commence, tu es sauvé. Ça commence là. Ça n'a pas rapport à la loi de Moïse. Nous, on a tous été sauvés sans passer par la loi de Moïse. On a reçu l'Esprit, notre vie a commencé à changer au moment où on a accepté Jésus-Christ. Recevoir le message de la bonne nouvelle que le Messie est venu et qu'il a accompli le sacrifice pour l'expiation de nos péchés, c'est cela qui fait de nous des enfants de Dieu. Dans Jean 1, les versets 9 à 13, ça parle de ça, de Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, puis le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, puis les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, ça c'est le Messie, c'est Jésus, c'est Yeshua, à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça commence là, quand tu crois dans le Messie, tu crois, tu l'as reçu, ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puis l'autre phrase est importante. « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Tout ça pour dire que le salut, il est dans le Messie. Ça n'a pas rapport de la chair, ni du sang. Ni des parce que eux autres, les Juifs mettaient l'accent. « Ah, ben moi, je descends de la tribu de Lévi, ou l'autre, je descends de la tribu de Juda. » Puis là, ils se croyaient sauvés ou bénis dans la bénédiction d'Abraham parce qu'il était un descendant selon la chair. Ça n'a aucune importance devant Dieu, la lignée de ta chair. Tu descends d'un tel, c'est ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. C'est Dieu qui décide qui va être sauvé, puis il a décidé de sauver le monde par la foi dans le Messie. Avez-vous la foi dans le Messie?
Oui.
Croyez-vous que Jésus est mort puis qu'il a payé la dette de vos péchés?
Oui.
L'avez-vous reçu?
Oui.
Bien, vous êtes sauvés. Puis le Seigneur, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Vous êtes dans le chemin du Seigneur. Alors, retournez pas dans une religion. Suivez le Messie.
Amen.
Suivez Jésus. Est-ce par la loi que les païens sans loi ont reçu le Saint-Esprit? Parce que les païens étaient sans loi. Mais est-ce par la loi que les païens sans loi ont reçu le Saint-Esprit, ou c'est par la prédication de la croix? Nous, on était des païens sans loi. C'est-tu en allant à la loi qu'on a reçu le Saint-Esprit, puis que notre Dieu a commencé à changer? On était sans loi, puis c'est pas par la loi, on l'a reçu par la foi. On croit au Seigneur, puis notre vie a commencé à changer. Puis c'est ce que Paul dit dans Galates 3:2. Il dit, « Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » C'est là. Fait que si tu l'as reçu par la foi, retourne pas à la loi. Amen.